J'ai fait une transat en convoyage en classe 40 que j'ai emmené à Québec-Saint-Malo. Et l'hiver 2009-2010, je fais une transat retour de classe 40 qui de Mexique en France. Et là, on perd le bateau, on chavire. Donc ça, c'était...
Quoi ?
C'était l'hiver 2009-2010. Ouais, je crois que c'était le 13 décembre 2009. Quelque chose comme ça. J'avais convaincu deux copains de venir avec moi chercher le bateau au Mexique pour le ramener en France. C'était leur première transat. Ils étaient hyper contents que je les emmène. On passe au nord de Cuba, on passe devant la Floride, et là, on part plein est. Et puis, c'est l'hiver dans l'Atlantique Nord, quoi. Et on se retrouve coincé dans une tempête, en fait, quoi. À mi-chemin entre les Bermudes et les Açores. Et le bateau est retourné par une grosse vague, quoi. Il reste à l'envers un quart d'heure, quoi. Et donc, le bateau finit par se redresser, moteur noyé, mât cassé. Et plein d'eau. Et donc voilà, donc là on déclenche les secours.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Sébastien Marsay. Bonjour Sébastien.
Bonjour Pierre-Arnaud.
Merci de prendre ce temps. Est-ce que peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais s'il te plaît te présenter ?
Eh bien, Sébastien Marsay, j'ai 35 ans, je suis père d'un enfant, marié, et ça fait maintenant une petite quinzaine d'années que je suis navigateur, je fais de la course au large.
Ok, et ça commence comment du coup la voile pour toi ?
Comment ça commence la voile ? Moi, je suis vraiment pas issu d'une famille de marins, plutôt d'Auvergnat, et je suis né à Paris, donc ça commence assez loin de la mer.
Ouais.
Et ça commence par en fait des documentaires à la télé de jeunes qui partent en bateau faire de l'école en bateau. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à avoir envie de faire ça aussi. Et donc jeune adolescent, j'ai eu cette expérience-là. Ça commençait d'abord par le voyage, quoi. Le voyage en bateau.
Tu la voile que tu faisais à l'époque, quand tu étais plutôt en école de voile classique, traditionnelle, comment tu faisais ?
Et en fait, j'en faisais pas du tout. Mes parents avaient déménagé sur Nantes quand je suis rentré au CP. Ils m'ont inscrit à des cours d'optimiste et j'ai détesté ça, j'ai arrêté. Pas une dizaine d'années, un peu moins, jusqu'à ce que j'ai envie de faire ce voyage un peu initiatique en voilier à l'adolescence.
Et alors, ce voyage, vas-y.
Du coup, on part de... Voilà, c'est un groupe de 15 adolescents qui partent sur l'estuaire de la Loire et qui s'en vont faire le tour de la Méditerranée et de la Mer Rouge le temps d'une année scolaire.
Vache, mais t'avais quel âge, du coup ?
J'avais 14 ans.
Et vous êtes 15 de 14 ans à partir ?
Ouais, il y avait deux voiliers. Donc on part, il y a deux voiliers, il y a un groupe d'encadrement. Et pendant un an, enfin pendant une année scolaire, en fait, on sillonne la mer Méditerranée, enfin on descend l'Atlantique, on passe Gibraltar, et après on sillonne la mer Méditerranée en passant par la Tunisie et l'Égypte, et la mer Rouge en descendant au Soudan, et puis en remontant au Sinaï. Et après on rentre par la Libye et la Grèce, et on rentre en Méditerranée, en Camargue.
Oh là là. Et tu dis c'était encadré, qu'est-ce qu'ils proposent ce type de voyage ?
Ouais, c'est une association qui n'existe plus depuis, je pense que ça n'existe plus trop aujourd'hui. Et donc voilà, c'est assez marrant aussi de voir que parmi les voileux, les coureurs que je fréquente aujourd'hui, on est quelques-uns à avoir eu cette expérience-là. Donc,
Tu faisais des cours à bord, comment ça se passe pendant un
mois ? Non, on n'avait pas de cours. On n'avait pas de cours, par contre, on avait des projets. On devait fournir un carnet de bord, produire des vidéos, Et puis chaque voyage avait une thématique. Nous, la thématique de notre voyage, c'était la migration des oiseaux. Donc on avait un parcours en fait avec les voiliers qui croisaient beaucoup de routes migratrices d'oiseaux. Et donc ça a été le prétexte en fait, c'était le prétexte à des rencontres. Donc on a rencontré des ornithologues, on a rencontré des chasseurs, on a fait des observations d'oiseaux. Enfin bon, voilà, c'était le prétexte du voyage en fait.
Ok. Et alors, ça passe 14 ans, t'es en quoi, 4e, 3e, seconde?
Ouais, 3e. C'était entre ma 3e et ma seconde.
Ah là là. Et tes parents étaient ok avec ça? Tu t'es laissé partir pendant un an?
Ils ont mis un peu de temps. Ça s'est pas fait en une fois, parce que il y avait un processus de sélection pour partir avec l'association. Donc au début, ça a pas marché. J'ai trouvé une autre association qui menait les mêmes projets. Et là, ça a fonctionné. Donc ça a été une démarche. Avant de partir, ça a été une démarche de bien 2 ans, 2 ans et demi. Et donc, ils se sont fait à l'idée, moi aussi, et puis voilà.
Et ça lance du coup toute une carrière, en fait, finalement. Tu t'es rentré de ça, et comment tu te tiens en classe, en seconde, après avoir passé un an en mer ?
Le retour est pas facile. Moi, je suis rentré, et oui, effectivement, ma conviction, c'était que j'avais envie de faire de la voile. Pas forcément de la course, mais j'avais envie de faire de la voile. Le prérequis au niveau de la famille, c'est de dire il faut au minimum que tu ailles jusqu'à ton bac. Donc je m'accroche un peu et puis je quitte le foyer déjà familial, donc je vais en internat parce que en ayant vécu un an sur un bateau, j'arrivais plus à vivre chez mes parents, non pas que j'ai des problèmes de relation avec eux, mais c'était comme ça, j'avais besoin de cette indépendance, donc je pars en internat. Je fais ma seconde, en première je rentre en section sportive voile à la Baule et j'y reste jusqu'à avoir mon bac. Voilà.
Et section sportive, c'est l'équivalent de sport-études, c'est-à-dire que tu as des journées aménagées
C'est pas aussi exigeant. En fait, moi, ce qui m'intéressait dès le départ, c'était la voile, la facette voilier habitable et le large. Donc j'ai été assez peu attiré par le dériveur. À cette époque-là, j'ai eu un choix à faire entre aller faire une section sportive à La Rochelle, qui était en laser, donc des petits dériveurs, ou aller à la Baule, qui avait ouvert une section sportive en classe 8. Et donc cette section sportive, elle venait d'ouvrir, donc j'ai fait le choix d'aller là-bas. Et bon, il s'est avéré que c'était un peu les prémices, donc c'était pas encore tout à fait organisé, donc ça a mis un peu de temps à démarrer. Mais oui, on avait... le mercredi qui était réservé à la navigation, on avait des sessions de mercredi et jeudi après-midi, je crois, pour la navigation. Puis on avait des sessions de préparation physique à côté des cours. Et donc voilà, et puis à côté des cours, les week-ends, j'essaye de naviguer un maximum.
C'est là que tu commences à faire tes premières régates ou pas, ou c'était même avant?
Oui, non, là, c'est les premières régates parce que je m'implique dans mon club à Nantes. Je navigue pas mal en IRC aussi, donc les entraînements en baie de Quiberon, qu'on est nombreux à connaître, à Trinité-sur-Mer. Et puis, je me forme aussi dans l'idée de d'avoir un boulot aussi à la sortie des études. Donc, je passe d'abord un monitorat de voile et puis ensuite, à la sortie, une fois que j'obtiens mon bac, je vais à l'École nationale de voile pour passer un brevet d'État.
Ok. Donc tu t'orientais vers cette partie de carrière, tu t'es dit ça te correspondait bien et c'est ça que tu veux faire aujourd'hui.
La course, alors l'aspect voile, c'était vraiment ce voyage initiatique. Ensuite, la course est venue plus par un désir de vraiment maîtriser le sujet, quoi. C'est-à-dire que j'avais envie de me perfectionner, puis à un moment donné de se confronter. Donc petit à petit, avec la course a pris un pas important dans ma pratique de la voile. J'avais la conviction que je voulais en faire mon boulot. Et voilà, mes parents m'ont quand même drivé en me disant, faut que tu aies quand même un petit diplôme qui te permette de bosser. Et puis le brevet d'État, vraiment, c'est à l'École nationale de voile, c'est une structure de dingue. Pendant un an, donc je sais pas, j'ai une vingtaine d'années, pendant un an, on a des bateaux à disposition, on navigue sur les Penduic, naviguer sur la Belle Poule, qui est un vieux gréement, et quand même c'est des expériences assez uniques. On fait du laser, donc on est dans un cadre idéal, c'est une année géniale, et puis on apprend beaucoup. Donc, et puis en parallèle, toujours, je continue à régater en IRC. Donc voilà.
Quand est-ce que tu commences du coup les régates de course au large ?
En IRC, on commence à en faire parce qu'il y a le programme du RORC, ouais. Le Fastnet, Meet of Malham, Cause Dinard, donc c'est du semi-auturier, quoi. Je participe à ces courses-là. Je crois que le premier Fastnet que je gagne, c'est en IRC, en équipage sur un A35. Je sais plus trop en quelle année. Mais voilà, c'est là que je commence. Et puis, petit à petit, en y mettant le pied, il y a l'idée de courir la Mini 650 qui s'insinue un peu en moi, quoi. Petit à petit, c'est une sorte de virus, quoi.
Que tu fais quand, du coup ?
Du coup, je la fais en 2007. Je dois passer le brevet d'État en 2005 ou 2006. C'est en 2006, je pense. En 2006, je commence à bosser sur un projet de classe 40, sur lequel je suis embauché en fait par François Engoulevent, qui a été président de la classe 40 quelques années, puis qui a été au début de la classe 40. Et en fait, lui, il construisait son classe 40 pour la Route du Rhum 2008. Et on a été amené à se croiser sur des régates en IRC, et il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir faire la fin de la construction avec moi, et les navigations de préparation, le convoyage retour de la Guadeloupe. Et donc moi, je voyais là-dedans une super occasion d'apprendre des compétences que je connaissais pas, donc les matériaux composites, je connaissais vraiment pas. Et puis surtout d'aller naviguer en classe 40, c'était surtout ça, quoi. Donc voilà, en 2006, je commence à faire ça. Et en parallèle, j'ai la chance de réussir à commencer à monter mon projet 650. Donc je passe à mi-temps sur le programme classe 40. Et en parallèle, je navigue en mini. Je commence à naviguer en mini.
Ok. Et alors, du coup, ça veut dire que cette mini-là, tu la prépares jusque le départ en 2007, tu m'as dit. Tu termines du coup cette course et l'année suivante tu es également en train de continuer à réparer la route du Rhum.
Ouais, non, en fait je me suis trompé, la route du Rhum c'était la route du Rhum 2006.
D'accord.
Donc je prépare le classe 40 pour la route du Rhum 2006. François, ouais, fait sa course, moi je vais l'accueillir, ouais, à l'arrivée. Et c'était l'intérêt que je voyais en vue de la Mini Transat, c'est que je faisais une transatlantique avant de faire la Mini Transat. C'était ma première transat. Donc je ramène son bateau en équipage de Guadeloupe jusqu'en France avec une escale aux Açores. Et pour moi, c'était ma première transat. Et je m'étais dit, c'est une bonne idée de faire une transat avant de faire ta Mini Transat qui sera en solitaire.
Oui, bien sûr. Donc, et alors du coup, ça se passe comment dans ta tête, cette première transat ? Comment tu vis le premier passage de plusieurs semaines sur l'eau dans la même boîte ?
Ben, ça se passe bien. On a, c'est les sponsors qui sont à bord. Donc le bateau était sponsorisé par les fermiers de Loué. Donc c'était deux éleveurs des fermiers de Loué qui étaient là. Et donc ils connaissaient pas grand chose à la mer. Donc c'est assez surprenant. Il y en a un qui est malade au point qu'on se demande si on va pas s'arrêter aux Bermudes pour le débarquer. Et le second, au bout de 5 jours, une semaine, se dit, il y en a encore pour combien de temps, quoi. Et donc, une transat à cette époque-là, sur les bateaux, en convoyage, donc sans trop solliciter le bateau, c'est entre 20 et 25 jours, quoi. Il s'avère que, il y a toutes les déconvenues qu'on peut avoir sur une transat, c'est-à-dire les voiles fatiguées de la course qui s'abîment, l'électronique récalcitrante qui fait qu'on doit barrer, et puis aussi notre inexpérience, parce qu'il y a la mienne aussi dedans, qui fait que on n'a pas forcément les connaissances pour solutionner tous les problèmes en un claquement de doigts, quoi. Donc, mais ça se passe super bien, moi c'est une super expérience, hein. Le retour quand même auprès, parce que ça c'était un peu douloureux, puis il a fait super froid, on a fait les Açores, la France auprès, dans du nord-est, il faisait hyper froid. Mais non, sinon ça se passe bien.
Et alors du coup, t'es tout fin prêt pour la mini ?
Et du coup, là on est, on doit être début 2007 ou fin 2006, et du coup après, la saison suivante, je me consacre entièrement à la préparation de la mini Transat, avec le circuit classique, l'acquisition, alors fallait acquérir des 1000 pour pouvoir se qualifier, donc mais bon, en s'y prenant 2 ans à l'avance, j'étais bien dans les clous, et puis je vois que, bon, sportivement, j'ai quand même des ambitions, quoi, malgré le fait qu'à l'époque, le top du top, c'était le Pogo 2, moi, j'avais pas un Pogo 2, j'avais un Dingo, mais bon, sur les courses d'avant-saison, j'arrivais à rivaliser, à faire des belles percées, je dirais, même sans faire partie du groupe de favoris, mais sportivement, je m'affirme un peu et je progresse, ouais. Ouais.
Et tu l'as fait combien de fois du coup derrière cette mini ?
Et bah la mini, je l'ai fait qu'une seule fois. La mini, je l'ai fait qu'une seule fois, donc en 2007. Départ retardé pour cause de météo. Donc le parcours à l'époque, c'était La Rochelle, Madère, Madère, Salvador de Bahia au Brésil. Et donc au départ à La Rochelle, ouais, on devait partir le dimanche et puis on part finalement le mardi. À cause de la météo, un départ un peu bizarre avec les proches qui sont plus là. Moi, je casse un safran sur la première étape. Donc, je fais une première étape un peu catastrophique et puis un peu galère parce que du coup, j'arrive tard à l'escale. Et puis, il faut réparer. Je prends une pénalité parce que je change de safran. Et par contre, je me régale sur la deuxième étape. Vraiment, je me régale. C'était une super nave. C'était une super nave et j'y repense souvent. Enfin, ouais, c'est vraiment la dimension mini 650 et puis surtout la dimension qui est peut-être encore plus prégnante aujourd'hui de se dire on n'est pas connecté, quoi. On n'a pas internet à bord, on a notre VHF, notre BLU pour prendre la météo, mais ça, c'est encore plus aujourd'hui, c'est encore. C'est un luxe encore plus important que c'était en 2007, quoi. Donc, non, vraiment super. Super, super.
Et c'est quoi c'est quoi l'anecdote de dingue que tu peux raconter sur cette croisière ?
Sur la mini, l'anecdote de... Il y a un truc qui me revient souvent à l'esprit, c'est le long des côtes du Brésil, on commence quand même à être bien fatigué. Et à bord, on a ce qu'on appelle un merveille. C'est un petit boîtier qui détecte les ondes radar et qui est divisé en 4 cadrans avec 4 diodes. Et en gros, qui sonne dans le cadran où il détecte un radar. Et donc, une nuit, je suis réveillé par le merveille. Alors, je sors sur le pont en me disant, dis donc, Seb, t'as bien fait, tu t'es réveillé et tout, nickel. Et en fait, en reprenant mes esprits sur le pont, je réalise que le bateau, il est déjà passé, il est derrière moi, quoi. Et que ça a dû sonner pendant un certain temps avant que je m'en rende compte. Et quand je me lève, le croisement, il a eu lieu et le bateau, il n'est pas si loin que ça, mais derrière. Bon, c'est passé, quoi. Donc,
t'aurais pu rentrer dedans, quoi.
Oui, il y a du trafic à cet endroit-là, même si je pense que la probabilité est faible, hein, mais ouais. Donc, voilà.
Tu sens pas, tu me diras, c'est assez grand quand même l'océan, mais tu sens pas qu'il y a cette crainte systématiquement, dès que tu commences à avoir la nuit qui tombe, d'avoir le risque, même d'ailleurs en journée, hein, mais d'avoir le risque de rentrer dans quelqu'un, malgré les outils de connectique, de détection, de ce que tu veux, qui font que...
Ben, ce qui est plus, ce que je trouve plus, tu vois, ça c'était pendant la mini aussi, moi ça me soucie pas trop, alors peut-être qu'aujourd'hui les gars en IMOCA qui vont à 30 nœuds ou les ultimes, ça je comprends que ce soit, si tu vas à telle vitesse que ça a des conséquences dramatiques, quand tu parles d'un mini 650, bon, au max tu vas aller à 20-22 nœuds, ce qui est déjà très très rapide, là ça peut taper, mais tu vas pas toujours à 20-22 nœuds, moi sur un bateau de série, non ça m'inquiétait pas trop, mais par contre c'était dans le poteau noir, je suis sous spi je crois, et il n'y a pas d'air, il y a zéro nœud de vent, et je ne suis pas manœuvrant du tout, quoi. Et d'un coup, il y a un cargo, quoi. Et donc, tu vois ce cargo, puis tu dis, là, on va passer pas très loin l'un de l'autre, quoi. Et tu n'as aucun moyen de faire bouger ton bateau, quoi. Tu es collé à l'eau, il n'y a pas de vent. Donc, tu dis, c'est pas grave, je vais prendre ma radio, je vais l'appeler, et puis il va changer sa route, quoi. Donc, tu prends ta VHF, tu l'appelles, et puis le mec ne répond pas. T'as pas de réponse, quoi. Et donc là, tu te dis, je vais essayer de rappeler. Tu te rappelles 2-3 fois, ça répond pas. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que t'es un peu désemparé, quoi, parce que t'as pas de vent, tu peux pas bouger, tu te dis, il y a une route de collision, ça va passer pas très loin, et le mec me répond pas à la radio. Bon, puis à la finale, je sais plus comment ça s'est dépatouillé, je crois que je m'étais stressé pour rien, pour la route de collision, où il y a une petite risée, puis ça, ça l'a fait, quoi. Mais...
Un petit coup de flip, gratuit.
Bah, c'est surtout que tu restes assez peu expérimenté. Enfin, moi, en tout cas, à ce moment-là, je suis assez peu expérimenté. Je sais pas, j'ai 22, 23 ans, c'est ma deuxième transat. J'ai pas fait beaucoup de milles. Donc, ouais, des situations comme ça font vite monter le stress. Aujourd'hui, elles le feraient peut-être moins.
Qu'est-ce qui s'est passé du coup derrière ? Qu'est-ce que tu rentres de ça et tu te dis quoi ?
Ce qui est difficile d'aller de projet en projet comme ça, c'est d'arriver à rebondir justement, de construire le projet d'après pendant que tu en mènes un. Et donc moi, je me trouve un peu désemparé au retour de la Mini Transat parce que je n'ai pas trop préparé la suite. J'étais à fond dans la prépa de ma Mini, donc je n'ai pas trop préparé la suite. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais ? À la fois, il faut revendre le bateau, mais je n'ai pas envie que tout s'arrête. Et donc, je continue une année. Je continue une année en 2008. Et puis, c'est des projets qu'on porte un peu à bout de bras financièrement. Autant, quand j'ai débuté en 2006, j'ai trouvé un partenaire assez rapidement. Et le partenariat s'arrête fin 2006 ou début 2007 parce que la boîte va mal. Et ils perdent un très très gros client et donc ils arrêtent le partenariat. Et donc, je cours la Mini Transat sans partenaire titre.
Ah oui.
Et donc un peu à bout de bras avec beaucoup l'aide de la famille et des amis et quelques partenaires techniques, mais rien de, enfin, en tout cas je donne de mon temps et de ma personne pour mener ce projet. Je continue en 2008 avec toujours l'espoir de décrocher un partenariat, et puis ça n'arrive pas, et je me rends bien compte que si je garde le même bateau, le même matériel et que je reste dans la même situation, enfin, il n'y a pas d'issue favorable, que ce soit sportivement ou même dans la gestion du projet, quoi. À un moment donné, je suis face à un mur, quoi. Donc, on vend le bateau. Mais bon, quand même, j'ai pas envie de tout arrêter. J'ai envie de continuer. Donc, dans cette phase-là, en gros, mon année, elle se divise en deux parties. C'est-à-dire que 50% du temps, je vais faire soit du convoyage ou de la préparation technique de voilier. Et 50% du reste de mon temps, je vais naviguer en Mini 650. Et du coup, j'ai envie de m'essayer au prototype. Et donc, en 2008, je suis en série. En 2009, ouais, je loue un proto pour un an, pour faire du proto, quoi. Je loue un proto, et puis il y avait un projet de transat vers la Guyane qui ouvrait la voie à des bateaux un peu moins récents, moins typés reaching, parce que c'était très reaching pour aller au Brésil, donc des bateaux un peu plus faits pour faire du portant, du VMG. Et donc les vieux bateaux retrouveraient un peu de cote, et donc je me dis, tiens, je pourrais essayer de faire ça avec le 260, et qui est bon pied, bon oeil, et qui a fait la dernière Mini Transat avec David Crémer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Je fais une super saison, je me régale. Ma meilleure saison en mini, je fais des podiums, c'est génial. Et par contre, toujours le même mur un peu financier, je trouve pas de partenaire. Donc ça s'arrête comme ça, et pas de deuxième Mini Transat, quoi.
Oui. Zut alors. Larme à l'œil quand même, tu regrettes de ne pas l'avoir terminé ce projet de 2 ans ?
C'est sûr, j'aurais bien aimé, mais en fait, c'est le hasard de la vie, hein. Il y a d'autres opportunités qui se présentent à moi assez rapidement après, parce qu'entre-temps, j'ai refait... Entre-temps, j'ai refait 2 transats en classe 40. J'ai fait une transat en convoyage en classe 40 que j'ai emmené à Québec-Saint-Malo. Et l'hiver 2009-2010, je fais une transat retour de classe 40 qui est de Mexique en France. Et là, on perd le bateau, on chavire. Donc ça, c'était... C'était l'hiver 2009-2010, ouais, je crois que c'était le 13 décembre 2009, ou quelque chose comme ça. J'avais convaincu deux copains de venir avec moi chercher le bateau au Mexique pour le ramener en France. C'était leur première transat, ils étaient hyper contents que je les emmène. Donc on part du Mexique, on passe au nord de Cuba, on passe devant la Floride, et là on part plein est, et puis bah, c'est l'hiver dans l'Atlantique Nord, quoi. Et on se retrouve coincé dans une tempête, en fait, quoi. À mi-chemin entre les Bermudes et les Açores. Et le bateau est retourné par une grosse vague, quoi. Et donc le bateau est retourné, reste à l'envers un quart d'heure, quoi. Un truc comme ça, ouais, un quart d'heure. Et donc le bateau finit par se redresser, moteur noyé, mât cassé. Et plein d'eau.
Et... Oh là là.
Et donc voilà, donc là on déclenche les secours. Et puis on déclenche les secours.
T'as pas le... On m'a toujours dit qu'avec la quille, il n'y a quasi aucune chance que tu puisses retenir le bateau. Comment tu fais pour retenir un bateau de cette taille-là?
C'est la mer. Hein. C'est la mer. Le vent n'était pas si fort que ça, mais il y avait beaucoup, beaucoup de mer. C'était 33 pieds de hauteur qui était annoncé.
Et... De vagues?
Ouais.
Ah oui.
Et moi, de tout ce que j'ai refait depuis, j'ai jamais vu la mer comme ça. J'ai jamais revu la mer comme ça. Jamais, tu vois, où je me suis réveillé, où on a commencé à prendre la baston la nuit. On savait, hein, ça faisait plusieurs jours qu'on essayait de fuir par le sud. Hein. On savait que le truc arrivait, mais on n'allait pas assez vite pour l'éviter. Et le vent est rentré pendant la nuit. Et au matin, au lever du jour, on a vu l'état de la mer, on a fait « Ah ouais, c'est vraiment très très gros. » Et donc ça a tenu toute la journée, et le soir, on a chaviré, à la tombée de la nuit, on a chaviré. Et en fait, c'est le bateau qui part en surf sur une vague, qui part au lof, qui se met travers à la vague, et le haut de la vague qui déferle sur le bordé, qui est déjà très gité, et le bateau se met à l'envers.
Oh là là. Et voilà. Ah, est-ce que tu maîtrises pas la vitesse dans la descente de la vague? C'est-à-dire que le surf va trop rapide?
Ben, en fait, on était au niveau de la configuration de voile, on était dans un entre-deux, c'est-à-dire que si on était GV3RI, tourmentin, on était surtoilé par rapport au vent qu'il y avait, donc on partait au off constamment, et sous tourmentin seul, on était sous-toilé, et donc du coup, on était vulnérable aux vagues, quoi. Donc en fait, on était, ouais, rétrospectivement, on était sous-toilé en étant en fuite sous tourmentin seul, mais bon, à la fois, avec la GV à 3RI, on ne maîtrisait pas le bateau. Je ne sais pas trop c'était quoi la solution. La solution, je pense, c'était de ne pas être là. Quoi, en fait. Donc voilà, on se retourne.
Comment tu te sens quand le bateau il est à l'envers, en plus il fait nuit, c'est quoi le truc qui te vient en tête?
Oh, tu ne penses pas à grand-chose. Hein. Tu penses un peu à sauver ta peau quand même. Parce que tu penses un peu à sauver ta peau, parce que Olive et Tom, ils étaient dans le bateau, moi j'étais à la barre, et donc je suis coincé sous le cockpit du bateau, quoi. Et donc j'étais attaché à la bastac avec ma longe. On était tous les trois, ça a aidé à ce qu'il n'y ait pas de pépins, c'est-à-dire qu'on est sortis de là tous les trois sans bobo, quoi. On était en TPS depuis la tombée de la nuit précédente. On était en combinaison de survie. Et donc, tu te retrouves dans l'eau, mais protégé du froid. Et donc, tu te retrouves, moi, je me suis retrouvé à l'arrière du bateau, à me tenir aux filières, bateau retourné. Et ça, pendant Olivier et Tom, ils sont sortis du bateau, ils m'ont rejoint. Et ils auraient pas dû, enfin, c'était sympa pour moi, mais je pense qu'ils étaient mieux à l'intérieur. Mais eux, à l'intérieur, ils avaient peur que le bateau coule. Donc voilà, et on s'est mis à l'arrière et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et moi j'aurais dit, parce que j'avais eu l'expérience de la Transgascogne 2007 où il y avait eu un tiers de la flotte qui avait fini retourner en mini 650, et donc moi j'avais cette expérience là, et donc j'aurais dit, bah, un monocoque ça revient toujours à l'endroit, donc on attend, quoi. Et donc on se dit, ok, on attend un quart d'heure, et enfin, on a eu une montre, on a dit on attend tant de temps, et le bateau a fini par revenir. En fait, le bateau est revenu, on prend la décision de décrocher le radeau et de le percuter, et au moment où on percute le radeau, le bateau revient à l'endroit. Donc on réembarque sur le bateau.
Oh là là. Et ça s'est calmé tout après ou vous avez eu une nuit mouvementée pas possible?
Non, non, on a, bah, du coup, on a déclenché les secours et dans la nuit, on a été évacué sur un cargo. Et on a été évacué sur un cargo, et l'évacuation sur le cargo étant beaucoup plus dangereuse que le chavirage en lui-même, quoi. Mais beaucoup plus.
Ah ouais?
Bah ouais, t'imagines un cargo, c'était un petit cargo, je crois qu'il faisait une petite centaine de mètres. Et il vient se mettre à coupe de ton voilier. Il vient se mettre à coupe de ton voilier dans tu vois, dans 9 à 10 mètres de vague, quoi. Donc c'est le carnage.
Et le bateau, du coup, irrécupérable, terminé, bonsoir.
Et le bateau, écoute, de toute façon, il ne pouvait pas. Nous, on n'avait aucun moyen de le ramener parce qu'on a largué le mât et la baume pour pas qu'il endommage la coque. Le moteur était noyé. Et donc, le capitaine, une fois qu'on a fini sur le pont du cargo, le capitaine m'a demandé bah, le bateau. Je dis bah, le bateau, c'est du matériel, quoi. Donc après il y avait une balise, on l'a suivi pendant un certain temps et puis après le bateau, malheureusement, on a laissé une épave, quoi. J'ai eu des nouvelles, je crois, 6 mois plus tard, d'un autre cargo qui était passé à côté, qui avait pris une photo où le bateau c'était, parce que le bateau quand même était bien enfoncé, le bateau était bien enfoncé dans l'eau quand on l'a quitté, parce que le cockpit autovideur, tu sais, où t'as des tubes d'évacuation, là du coup ne se vidait plus quand les vagues déferlaient parce qu'il commençait à s'enfoncer. En fait, l'eau était rentrée dans le compartiment étanche arrière, donc le bateau était enfoncé par l'arrière,
ouais.
et du coup le cockpit s'évacuait plus, l'eau qui déferlait dans le cockpit ne s'évacuait plus, quoi. Et donc 6 mois plus tard, je reçois une photo avec un mot du MRCC de Norfolk, qui est celui qui est venu, enfin qui est un avion qui est venu survoler aussi, et qui nous demande de confirmer que c'est bien le bateau qu'on avait abandonné. Je dis bah oui, c'est ce bateau-là. Et donc le bateau était encore avec le pont au niveau de l'eau. Tu vois, le pont était légèrement sous l'eau, quoi, 6 mois plus tard. Ouais. Voilà.
Eh bien.
Donc en 2009, Noël 2009-2010, on rentre avec ça dans nos valises. Tu vois, on arrive, on devait rentrer par la mer, et puis on arrive tous à l'aéroport à Paris, mais on est content de rentrer, quoi.
C'est dingue. Et tu vois, typiquement, ce type de d'épave là dont tu parles, qui va encore traîner finalement dans l'océan, t'as pas peur quand tu fais de la navigation de nuit de te la prendre, tu vois, typiquement?
Ouais, je pense qu'il a depuis, il a coulé.
Ouais.
J'espère que depuis, il a coulé. J'espère. Hein. Je suis pas fier, hein, de l'avoir laissé là, le bateau. Mais... Je suis pas fier de ça, hein, c'est sûr, mais j'espère qu'il a coulé ou qu'il s'est échoué quelque part et qu'il n'est plus un danger à la navigation.
Ça t'a pas vacciné, ça, de la voile? T'es pas rentré en te disant plus jamais je monte sur un bateau?
Ouais, il y a une petite période de, doute quand même, si. Une petite période de doute après, ouais. Il y a une petite période, tu vois, si. D'aller à la plage, d'entendre le bruit des vagues, tu dis, t'as le bruit des vagues qui cassent, quoi. Voilà. Mais c'est passé, hein. C'est pas arrivé qu'à moi, hein. Ça arrive à plein de coureurs, hein. des événements comme ça. Ça arrive. Quand tu fais le compte, tu te rends compte que ça arrivait à beaucoup plus de monde qu'on ne croit.
Ouais. On n'en parle pas, du coup, en général. Je pense que
on en parle sur le coup, et puis après, le temps fait qu'on oublie. Voilà. Non. Donc après, moi, j'ai eu la chance de, en fait, dans mes périodes de boulot en tant que préparateur technique, j'avais bossé un peu chez Groupama. La préparation de Groupama 3 pour leur trophée Jules Verne, qui était à peu près à cette époque-là. Et donc, du coup, ils préparaient le projet... à ce moment-là, ils préparaient leur premier projet Volvo Ocean Race. Et donc, une fois que j'ai digéré tout ça, je reprends contact avec eux, et puis je postule, quoi. Parce qu'il y avait des règles, il fallait des équipiers de moins de 30 ans. À l'époque, j'avais moins de 30 ans. Ils s'engageaient pour 2 éditions. Donc moi, j'allais avoir moins de 30 ans pour les 2 éditions de la Volvo. Et donc, je leur dis, bah, je postule. Donc, j'ai pas de nouvelles, quoi. Tu vois, j'ai 0 nouvelles. Donc, j'ai pas de nouvelles. Je repose la question, quoi. Et jusqu'à ce qu'un jour, on me dise, bah, viens, parce que ils faisaient des campagnes de navigation qui étaient pendant l'hiver à Lorient et qui étaient assez rébarbatives pour les équipiers expérimentés, parce que ça consistait à, en fait, comme on pouvait pas aligner 2 bateaux pour faire du test, pour essayer par exemple un SPI et un Genaker, c'était interdit. On n'avait pas de bateau, puis de toute façon, c'était interdit. Donc, il fallait faire de l'acquisition de données. Donc, on naviguait sur une config de voile pendant un certain angle, pendant un certain temps, et puis après, il fallait mettre une autre voile au même angle pendant la même durée et comparer. Et donc, tout ça, c'était assez fastidieux et il y avait un peu de lassitude. Donc, ils avaient besoin d'avoir un peu de sang frais, quoi. Donc, ils m'ont demandé de venir, puis je suis venu.
Trop bien.
Et ouais, pour moi, c'était super. Pour moi, c'était super. C'était laisse tomber. Naviguer sur un VOR 70. Déjà, le bateau, au début, je ne comprenais rien. Et en plus, tout le monde parlait anglais. Donc, moi, je ne parlais pas anglais du tout, quoi.
Ah, et puis, les mots de voile en anglais, ça doit être quelque chose.
Ah bah, le plus dur, c'est... Enfin, ouais, une fois que tu as le vocabulaire, c'est bon. Mais tu vois, les premières naves... moi, je ne savais pas, quand il y avait quelqu'un qui parlait à bord, s'il déconnait sur son dernier week-end ou si on allait faire un changement de voile. J'en avais aucune. j'en savais rien, quoi. Je ne savais rien. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parlait, tu es aux aguets, tu es là, attends, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, il ne se passe rien. Bon, ça devait être une blague. Ou ça devait être... donc, voilà. Et puis, bah, non, mais génial, tu vois. L'équipe avec Franck, avec Damian, Thomas Coville, Charles Caudrier. C'est une super campagne.
Tu nous referas rapidement, juste pour ceux qui ne connaissent pas, un VOR 70, ça représente quoi? C'est quoi comme bateau?
Eh bien, c'est un bateau de 21 mètres qui, en gros, c'est une classe, c'est une box rule, donc c'est pas des monotypes. Donc les bateaux doivent répondre un peu comme les IMOCA, mais sauf que c'est pas les mêmes règles. Donc c'est ouais. Pas tous identiques et c'est des bateaux qui sont faits pour être menés à l'époque par un équipage de 11 personnes okay. Destinés à la Volvo Ocean Race, qui est un tour du monde en équipage avec escale.
Okay.
Une épreuve qui dure tout cumulé, qui dure 9-10 mois. Quoi. Et donc, cette épreuve-là, elle a lieu, c'est la Volvo 2011-2012. Et nous, enfin moi, j'intègre le projet, je pense, début 2010. Début 2010, quoi.
Eh bien,
voilà.
Et alors, ça fait quoi d'être à 11 sur un bateau, tout le temps en train de se passer la barre, se passer les écoutes?
Ah ben moi, je barre pas au début. Moi, je suis à la petite main, quoi, tu vois, je suis là pour me former, bah, c'est génial. Non, franchement, c'est génial. C'est aussi à la fois, c'est connaître des sensations que tu n'as jamais connues sur l'eau, tu vois, un bateau d'une telle puissance, à atteindre ces vitesses-là, ça agite, il y a la quille basculante, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, non, c'est génial, c'est une opportunité unique, quoi. Puis, tu vois, surtout de pouvoir... côtoyer des marins aussi expérimentés puis aussi talentueux, et voir comment ils font, quoi, comment eux ils font. Et du coup, je pense que ça m'a aidé beaucoup à progresser, quoi. Donc, super expérience. Et puis, bah, c'est vrai que le concept de faire un tour du monde à la voile, c'est quelque chose d'assez unique, quoi. C'est le concept, je vais faire une course en bateau, je vais faire le tour du monde, puis je vais revenir, c'est quand même assez dingue, quoi. Donc, quelque part, moi, ça me... Cette envie de faire des courses autour du monde à la voile grandit chez moi, quoi.
Comment tu fais avec ta famille, ta copine, ta femme, si tu pars pendant autant de temps?
Ah, bah, à l'époque, je suis assez libre. non, à l'époque, je suis en couple, mais... ma femme actuelle est étudiante, donc voilà, et puis c'est une telle opportunité que, tu vois, à l'époque, je suis prêt à faire ces concessions-là, je suis encore prêt à les faire aujourd'hui, parce que voilà, quand on fait de la course au large, on le fait avant tout par passion, quoi. Le jour où moi, je serai plus passionné par ce sport ou par ce que je fais, j'espère que je serai suffisamment clairvoyant pour dire « je fais autre chose ». Et ne pas m'accrocher à ça parce que c'est la seule chose que je sais faire. Donc non, c'est bah de toute façon, la vie de coureur au large, qu'on soit jeune ou un peu plus expérimenté, ça demande, comme je pense le parcours de pas mal de sportifs, pas mal de concessions personnelles, familiales. Et donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir un entourage qui me soutient à fond là-dedans, quoi. Tu vois, là, il n'y a pas beaucoup d'occasions où ma vie perso m'a amené à devoir décliner des projets ou des challenges, ou la seule occasion, le seul moment où j'ai dit, bah, écoute, moi, je préfère être à terre avec ma famille, c'était pour la naissance de mon fils.
Ok.
Voilà, je me suis dit, bah, non, là, c'est plus important que je sois là pour assister à la naissance de mon fils plutôt qu'à faire le mariole sur un bateau.
Ouais, bah oui.
Donc,
t'es basé où, du coup, aujourd'hui, avec ta femme et ton fils?
On vit à Lorient.
Ok.
On vit à Lorient, ouais. Ouais.
Comme beaucoup d'ailleurs de skippers, je suppose.
Ouais, bon, on est bien. Hein, non, on est bien. Franchement, on est bien. On est bien pour la voile, mais pas que. En fait, moi, j'adore Lorient. Ce que j'aime moins à Lorient, c'est justement qu'il n'y a pas cette possibilité de sortir du. On est tout de suite dans l'entre-soi des voileux. Et que parfois, quand tu veux faire autre chose, tu veux penser à autre chose, tu veux voir des gens qui ont d'autres centres d'intérêt. Ben, moi, je suis grandi à Nantes et j'aimais bien cette ville-là parce que culturellement, il y a de la vie. Tu peux voir des expos, tu peux aller au théâtre, tu peux aller au ciné, tu peux aller voir un concert et tu peux aller boire un coup sans croiser tout ton cercle de relations professionnelles. Et donc voilà. Bon. Mais non, à Lorient, on est très très bien, on a une super qualité de vie.
Bon. Alors, du coup, tu termines cette deux années de Volvo. Qu'est-ce qui se passe derrière ?
Eh ben, la Volvo, donc il y a la phase où on la prépare. Après, il y a la phase pendant la course. Et donc, ça finit fin juillet 2012.
Ouais.
Et donc là, j'avais un peu posé les jalons de ce que je pouvais faire après.
Ouais.
Je retrouve mes potes... des années mini, Sébastien Rogue, Bertrand Castelnérac et Rémi Beauvais. Et on part faire la Québec-Saint-Malo ensemble avec le Classe 40 de Seb. Et ça, donc là, c'est une redécouverte de l'équipage un peu plus restreint. Oui, des projets un peu plus petits, quoi. Et donc on se régale, quoi. On se régale, on fait la Québec-Saint-Malo, on finit troisième, on a une belle cohésion d'équipage. Et même si Bertrand finalement peut pas venir, Bertrand c'est ça, à la finale on l'a fait à 3 parce que Bertrand peut pas venir, il est retenu sur le Tour de France à la voile. Et donc voilà, et après j'avais pris contact, je sais plus comment ça se fait, à l'arrivée de la Québec-Saint-Malo, il y avait le début des modes 70, et donc je rentre dans l'équipe Spindrift Racing, au départ comme wincher pour les imports, parce qu'il y avait le Tour de l'Europe en mode 70. Et donc, à chaque escale, il y avait une régate inshore, et donc, il fallait des gars pour tourner les manivelles. Et il paraît que j'étais bon à ça, ou que je suis bon à ça, et donc, ils m'embarquent pour ça.
Ok.
Donc voilà, j'embarque, et donc j'intègre Spindrift, ouais, en 2012, et après, je vais rester avec eux pendant un certain temps, parce qu'ensuite, ils rachètent l'ancien Maxi Banque Populaire, qui remettent à leur couleur. Et donc, il y a un programme de mode 70, il y a un programme de Maxi. Voilà, il y a Tour de l'Europe, la Route des Princes. Ensuite, on fait le record, c'est la Route de la Découverte, Cadix San Salvador. Voilà, donc je fais tout ça avec eux.
Dis-moi, ça fait quelle taille le maxi ?
Oh, bah, le bateau il fait 47 mètres, si je ne dis pas de bêtises, 40 ou 40 mètres, je ne sais plus. Je sais plus.
T'as de quoi faire un footing dessus, quoi.
Non, 40 mètres, il fait 40 mètres. Il fait 40 mètres de long, le bateau.
Ouais. Et, en trimaran, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est maxi multicoque. Même à ce jour, hein, c'est le plus gros trimaran de course qui existe, quoi. Ouais, moi je fais ça.
Mais tu dois hisser combien de temps pour hisser une voile avec cette taille de bateau ?
Ah bah, hisser la grand voile. Alors la grand voile, une fois qu'elle est en haut, après on prend des riz, quoi. Mais ouais, toutes les manœuvres. Et donc moi là, je passe au poste de numéro 1 sur le bateau. Donc je suis en charge des manœuvres de voile d'avant, hisser, affaler, connecter les drisses. Et bah, je fais pas ça tout seul. Hein. On est 14 à bord à l'époque, tu vois.
Ouais.
Et donc voilà, c'est génial, c'est un bateau fantastique, quoi. C'est un bateau fantastique. Si on fait le Fastnet aussi, je crois qu'on fait une tentative de record de Tour d'Irlande. On a gagné une ou deux fois le Fastnet avec Spinrick, je sais plus.
Et un trophée aussi ou pas? Est-ce que vous faites un trophée Jules Verne?
Eh bien, le trophée Jules Verne, mais c'est après. On fait une tentative de trophée Jules Verne. En fait, tu vois, moi, je quitte Spindrift en 2014 parce que j'ai une proposition pour retourner faire la Volvo Ocean Race avec un équipage américain.
OK.
Donc, Team Alvi Medica, c'est en gros l'équipe la plus jeune de la Volvo 2014-2015. Et donc, moi, j'intègre un peu au dernier moment l'équipage, c'est-à-dire que en fait, ils me proposent au mois d'août de venir faire un essai avec eux. Et à la fin de l'essai, ils me demandent de rester pour... Alors au début, je ne comprends pas bien si c'est juste pour faire la première étape ou pour tout faire. Puis ils me disent, non, ce serait pour tout faire. Et donc, du coup, le départ est au mois d'octobre, quoi. Et donc, me voilà embarqué, mais en même temps très heureux. Je l'avais cherché un peu, quoi, tu vois. C'est pas de force, quoi. Et donc voilà, de 2014-2015, c'est de nouveau la Volvo Ocean Race. Alors ça a un peu changé parce qu'entre-temps, ils ont changé les bateaux. C'est plus des bateaux, c'est des monotypes, donc les bateaux sont tous identiques. Ils sont un petit peu plus petits, ils font 65 pieds au lieu d'en faire 70. Et par contre, c'est un tour du monde aussi, donc le parcours c'est... Alicante, Cape Town, Abu Dhabi, Sanya, Auckland, Itajaï, Newport, Lisbonne, Lisbonne-Lorient, et Lorient-Galway. Non, c'est pas Galway, c'est en Suède. Göteborg.
Ok, ouais, très bien. Ah oui, ça fait un sacré tour, hein. Et ouais, ça, tu m'as dit entre 9 et 10 mois, c'est ça en tout?
Ben, en gros, tu pars au mois d'octobre et tu arrives au mois de juillet.
Ouais, ça. T'as le temps de revenir entre deux sessions ou pas? Des pauses suffisamment longues?
Moi, j'ai eu une étape que j'ai pas faite. Parce que t'as des règles pour changer les équipages. Donc, tu vois, ça te donne une grosse vingtaine de jours de break. Et sinon, le reste du temps. Je crois pas être rentré. Si je suis rentré à Noël. Sinon, c'est ma femme qui est venue aux escales. Mais tu sors de là, t'es lessivé, quoi. Tu vois, c'est éreintant, quoi. C'est éreintant, parce que c'est des étapes qui durent, pour les étapes longues, c'est des étapes qui durent entre 20 et 24 jours. Et souvent, à terre, t'as pas beaucoup de au maximum, tu as une semaine de récup, mais c'est vraiment le max. Souvent, ça se résumait à très très peu. Je me souviens, à Cape Town, on a eu un week-end. Et ensuite, il faut repréparer parce qu'entre chaque étape de ralliement, il y a ce qu'on appelle une régate inshore. Et donc, faut la préparer aussi, quoi. Donc, faut refaire les manœuvres pour faire une régate inshore. Donc, t'as deux entraînements, puis la régate. Donc ça prend du temps. Donc en fait, on a vraiment assez peu de récup, quoi. Donc le fait d'avoir une étape off, c'est vraiment c'est salvateur, quoi.
Tu dors comment? Tu me fais un comparatif entre le Mini 650 et les gros, là, les VOR 70 ou le nouveau type en 65. Tu dors comment en comparatif? Mieux ou moins bien?
En fait, ce qui change beaucoup, c'est que quand tu es en équipage, tu as un système de car. Donc, tu choisis pas nécessairement quand est-ce que tu vas dormir. Alors que quand tu es en solitaire, tu peux adapter tes plages de sommeil aux plages où tu sais que tu as de la facilité à dormir, quoi. Donc, ça, c'est la grosse différence. Moi, j'ai pas navigué sur les IMOCA récents, mais des bateaux que j'ai pratiqués, le plus inconfortable, c'est le Volvo, le VOR 65. Parce que tu es dans un espace. Tout petit à l'intérieur avec beaucoup de monde, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, en fait ça va jamais, parce que quand il fait chaud, il fait très chaud, quand il fait froid, ça condense à bloc, donc tu as de l'humidité. C'est vraiment le bateau le plus inconfort, enfin en tout cas, ouais, peut-être les nouveaux IMOCA le sont encore plus parce qu'ils vont vite et tout et qu'ils tapent, mais la promiscuité à bord aussi, elle est, faut la gérer, quoi. C'est
Il y avait des femmes dans les 14, dans les 11 personnes de la Volvo ?
Non, cette année-là, alors on était moins nombreux, ils avaient réduit l'équipage, c'est-à-dire qu'on était 9 avec le Mediaman. Il y avait un équipage qui était entièrement féminin, où du coup, elles étaient 11, je crois. Et ensuite, la mixité est arrivée à bord sur les bateaux pour l'édition d'après, mais que j'ai pas faite, qui était 2017-2018, je crois, ou 2017-2018. Ouais, je crois que c'est ça. Et non, il n'y avait pas d'équipage. Il y avait, en 2014-2015, il n'y avait pas d'équipage mixte. Mais ouais, la promiscuité à bord, elle est. Ouais, elle est... faut bien s'entendre, quoi.
Surtout si tu passes 9 mois avec la même personne, c'est clair. Ouais. Que...
Bah, ouais, et puis en plus, tu passes ton temps en mer, mais tu passes aussi ton temps à terre, tu vois. Le temps où tu reprépares l'étape d'après, où tu prépares ton inshore, t'es de nouveau avec les mêmes personnes. Donc ouais, c'est important. Je pense que c'est un des facteurs les plus importants pour réussir cette course, c'est de réussir à avoir un collectif qui explose pas en cours de route, quoi. D'avoir des gens qui arrivent à être aussi longtemps entre eux et qui sont prêts à faire toutes ces concessions pour espérer faire une performance, quoi. Donc voilà.
Tu termines ça, tu m'as dit. 2000...
Et ben ça c'est juillet 2015. Et après, j'ai la chance de réintégrer Spindrift Racing quasiment dans la foulée.
Et c'est là que tu fais le trophée ou pas ?
Et ouais, et donc l'hiver 2015-2016, on fait une tentative de trophée Jules Verne.
Ah, sur le maxi à nouveau ? Sur le
ouais.
Grand...
ouais, sur le maxi, ouais. Là, on part, on fait la tentative de trophée Jules Verne.
Ça met combien de temps un trophée ? C'est quoi,
et ben là, alors à l'époque, le record, il est de 45 jours. Il est détenu par Loïc Perron. Okay. 45 jours et nous on fait le tour en 47 jours, donc on loupe de 2 jours et en gros on perd tout. Bon, alors on a eu quelques péripéties, il y a toujours des péripéties sur les trophées, enfin sur des courses ou des records comme ça. On avait heurté quelque chose au niveau des Kerguelen, on n'avait pas eu un sud où on pouvait aller très très vite. Et sur la remontée au large de l'Amérique du Sud, on détecte un problème sur le mât, quoi. Un matin, on naviguait sous Jenaker assez haut et le matin, on voit qu'il y a un problème sur le mât, il y a un enfoncement sur le mât, quoi. Et donc là, c'était un peu la dernière chance qu'on avait d'accrocher le record, c'était de pas manquer une transition météo à ce moment-là. Et donc du coup, du fait de cette avarie ou pas, on peut pas refaire l'histoire, hein. Ça se trouve on n'aurait pas eu l'avarie, on l'aurait loupé quand même, mais bon, en gros toutes nos chances s'envolent un peu, nos dernières chances de battre le record s'envolent à ce moment-là, parce que on est obligé de ralentir pour pouvoir faire la réparation. Et donc voilà, et puis quand cet hiver... Ouais, vas-y.
Non, vas-y.
Cet hiver-là, il y avait aussi Idexport qui faisait la tentative, et en fait on avait pris la même fenêtre. Ils étaient partis, Idexport était parti... je sais pas, 6 ou 12 heures avant nous, de Ouessant.
Et vous les suiviez ou vous faites comment ?
On regardait quelle était leur route, mais non, nous on avait notre propre stratégie, les bateaux sont quand même différents, tu vois, c'est pas les mêmes bateaux, donc ça implique pas forcément les mêmes routes. On a été assez proches à un moment donné dans le Pacifique, mais voilà, bon, y avait, parce que dans le Pacifique, il y avait eu un enjeu pour... il y avait des routes qui faisaient descendre très très sud, tu vois, par 60 degrés sud, donc ça devenait dangereux par rapport aux icebergs, donc finalement aucun des deux bateaux n'a pris cette route là et non, on se suit pas, mais on regarde ce que fait l'autre. C'est toujours difficile d'avoir un bateau entre guillemets similaire à côté et puis de l'ignorer complètement, quoi, sachant qu'on essaye de battre le même chrono, quoi.
C'est quoi la sensation à bord de vitesse que tu dois avoir sur un truc aussi grand?
Ouais, c'est assez ouf quand ça va vraiment vite. Moi, j'ai le souvenir, la pointe, c'est ma vitesse max que j'ai fait en bateau, c'est sur ce bateau-là, c'est d'être monté à 47 nœuds. Tu vois, un surf sur une vague, puis t'as un bateau qui fait 40 mètres devant toi, les étraves, elles sont loin, puis là, tu prends le surf, tu... Et ouais, c'est hallucinant. C'est... Ouais, ouais. Non, c'est génial.
Mais alors, du coup, effectivement, à 47 nœuds, bon, tu fais quoi en moyenne? Tu fais 30 nœuds sur le tour de...
Oh, je sais plus, en fait, combien il faut faire pour le battre. Je sais plus combien il fallait le faire sur... En fait, le trophée Jules Verne, ça dépend beaucoup comment tu comptes les 1000. Parce que si tu comptes les 1000, la distance que tu as à parcourir par 60 degrés sud, qui est très, très sud, tu vas que de manière anecdotique, mais que tu la comptes de 50 degrés sud ou à 40 degrés sud, ça fait une grosse différence sur le nombre de milles que tu as à réaliser pour faire ton parcours. Ouais, donc en vitesse moyenne, je saurais pas te dire. Je dirais que c'est aux alentours, faut faire une moyenne à 27 ou 28 nœuds, un truc comme ça. Enfin, depuis, le record, il est tombé à 40 jours et 23 heures. Avec Idexport.
Ah.
Ouais. Idexport qui fait une tentative, je crois, l'année d'après ou encore une année après, je sais plus. Donc 2015-2016, je pense qu'ils font 2016-2017, je sais plus quelle année ils le battent, mais en gros ils le battent et ils font 40 jours et 23 heures. Et puis entre temps, bon, il y a Thomas Coville qui en solo fait un temps de 49 jours et 3 heures, je crois, et il y a François Gabart qui lui fait 42 jours en solo
sur le même bateau.
Non, pas sur le même, sur le massif.
Oui, non, pardon, sur le même type de bateau, excuse-moi.
Ouais, sur le trimaran ultime, ouais.
Ouais.
Donc, voilà.
Tralala. Ça fait quand même pas beaucoup, hein. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu too much de tout le temps aller viser plus bas encore? Genre, le jour où la personne fait 38 jours, est-ce que ce sera encore un succès de dingue? Comment tu vois la chose, toi?
Bon, c'est difficile de... Quand t'es... C'est quand même tentant, quoi. C'est quand même tentant. Je veux dire, ce qu'on aime, c'est faire aller vite des bateaux et essayer de battre un record. Donc, mais c'est sûr que tu vois, aujourd'hui, les ultimes, ils volent. Alors, ils volent pas tout le temps, mais ils vont quand même beaucoup plus vite. De ce que je lis, de ce qu'ils disent, ils peuvent descendre sous les 40 jours. Donc, après, ça va être. En fait, le trophée Jules Verne a comme beaucoup de records, mais sauf que là, on n'a pas du tout de visibilité sur la météo sur aussi longtemps. Il y a aussi quand même une part... La météo fait une partie du record aussi, quoi. Et des enchaînements météo, quoi. Donc, il y a cette
variable-là. Il faut avoir un peu de chance là-dessus aussi, quoi.
Tu vas prendre ta fenêtre, tu vois, aujourd'hui, ta fenêtre de départ, tu sais quel temps tu vas faire à l'équateur, et si tu vois que tu arrives à descendre bien le long des côtes d'Amérique du Sud, et que éventuellement tu peux voir qu'il y a une dépression qui va te permettre de couper un peu Sainte-Hélène, mais tu n'en auras pas la certitude quand tu vas partir. Donc, tu jettes un peu une pièce, quoi, quand même, sur ta fenêtre de. Alors, tu t'essayes d'avoir le moins d'inconnus possible, mais n'empêche que c'est une prévision, tu vois, je sais plus combien c'est le temps à l'équateur, ça doit être 4 jours ou 4 jours et demi, un truc comme ça. Donc là, t'as une idée du temps, et puis après, ce qui fait que tu vas pouvoir couper le fromage, c'est plus à 6 ou 7 jours. Donc là, ça commence à être un peu aléatoire au niveau prévision, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais, moins évident, tu vois.
Donc voilà.
Qu'est-ce qui se passe derrière le Jules Verne en 2016, du coup? Tu continues encore la voile?
On continue avec Spindrift. On devait faire une tentative de nouveau l'hiver d'après qui finalement est annulée pour des raisons internes à l'équipe. Yann décide de ne pas faire de tentative cet hiver-là. Et du coup, en fait, le programme de l'équipe change un petit peu. Et se réoriente vers des petits catamarans. Le M32, qui est un catamaran qui fait 32 pieds et qui sert de support au World Match Racing Tour. Donc c'est un championnat du monde de match racing. Il y a 5-6 épreuves partout dans le monde. Et c'est des bateaux monotypes. On arrive, c'est même pas nos bateaux. Donc on arrive juste l'équipage. On fait les régates et puis on essaye de performer. Donc on se met au match race. Donc, il y a ce programme avec ce catamaran-là. Et il y a un autre catamaran qui s'appelle le GC32. Donc, aussi 32 pieds, mais qui, lui, par contre, est équipé de foils qui lui permettent de voler. Et donc, on est impliqué sur les deux circuits. Et donc, en 2016, on débute. On va se faire une période d'entraînement à Lanzarote. Et on allait débuter la saison. Et moi, en avril 2016, sur la fin d'un entraînement, on décroche, on plante avec le bateau. Et je me casse le poignet, quoi. Donc là, je suis à l'arrêt. Je suis à l'arrêt, blessé, quoi, tu vois. Donc, je me fais opérer du poignet. Et je suis arrêté. Je loupe toute la saison. Je peux reprendre les navigations en septembre, quoi, tu vois.
Ah la vache.
Ouais.
Un coup dur.
Ouais. Donc, ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, stand-by, quoi. Stand-by, et je reprends avec Spindrift dès que je peux, en septembre 2016, quoi. Mais la saison, elle est passée, quoi, tu vois. Donc, il y a quand même un programme, il y a quand même un programme maxi, mais je sais plus, cet hiver-là, on part pas non plus. Je mélange peut-être un peu les années, mais en tout cas, cet hiver-là, ouais, on part pas. Et donc, l'année d'après, je continue un peu sur le même format. Je refais du M32. Il n'y a plus de GC32. On a arrêté le GC32, donc on refait du M32. On a fait beaucoup. C'est hyper intéressant parce que vraiment, on travaille, tu vois, les règles du match race. On fait des débriefs avec Marc Bouette, qui est hyper précis sur les règles de course. Il faut intégrer des nouvelles règles parce que le circuit a développé ses propres règles. Donc, c'est techniquement, c'est hyper intéressant. Et donc, après, c'est l'hiver dont je te parlais tout à l'heure, l'hiver 2017-2018, où moi, je décide de ne pas embarquer sur la tentative de Jules Verne parce que mon fils va arriver dans l'hiver. Et donc, c'est incompatible et j'ai pas envie de rater cet événement-là. Donc, j'arrête, je laisse mon tour, quoi. Voilà.
Beau geste.
Ouais, franchement, j'aurais manqué ça pour un au monde, franchement. Donc voilà. Et donc je me retrouve avec un peu de temps à terre et je me dis avec du temps à réfléchir, et puis je me dis est-ce que c'est pas le moment d'essayer de renaviguer en solitaire? Et donc, je me mets comme objectif la route du Rhum 2018. Et donc, je vais au Salon Nautique. Je m'inscris à la route du Rhum en classe 40, alors que j'ai... je m'inscris, donc je fais le chèque, hein, ça veut dire faire le chèque, et alors que j'ai pas de bateau et pas de sponsor. et donc ça, c'est au mois de décembre. Et là, vraiment, j'ai vachement de chance parce qu'au mois de février, j'ai un sponsor. Mais par contre, j'ai pas de bateau. Et là, tout le monde voulait faire la route du Rhum en classe 40. Et donc, ça devient galère de trouver un bateau, quoi. Donc, finalement, je trouve un bateau qui n'est pas de toute dernière génération, mais qui peut quand même me prétendre à faire dans les 10, quoi. Et donc voilà, je suis de nouveau à la barre de mon propre projet avec un beau partenaire, Camping to Happy, tu vois, c'est une relation hyper sympa. Et donc une belle saison, c'est vraiment super de mener soi-même son projet, d'avoir les clés en main, de faire ses choix, t'as aussi la partie dont on n'a pas assez peu parlé derrière, mais la partie un peu entrepreneuriale, quoi, où tu vois, faut démarcher d'abord pour trouver un partenaire, ensuite il faut négocier, après il faut contractualiser. Le plus dur étant de trouver, quoi.
Bien sûr.
C'est clairement le plus dur. Et puis après, la partie sur l'eau et sportive, c'est le bonus, quoi, tu vois. Mais non, vraiment, je me suis régalé. Et malheureusement, je casse le bateau. Le départ de la route du Rhum est assez sportif. Et donc... il y a un premier passage de front, et donc je passe le front, et donc on vire de bord en tribord à mur derrière le front. Et puis au matin, j'étais plutôt le pied sur le frein, parce que j'avais vraiment conscience qu'il fallait passer ce coup de vent pour réussir à finir. Et donc pour faire une perf, d'abord il faut finir. Le matin après ce virement de bord, j'étais sous J3, je vais chercher mon J2 dans la soute à voile. Et donc, je m'agenouille et puis, tu vois, je sens le fond du bateau qui gondole sous mes pieds, quoi. Et donc, je dis, ça me surprend, tu vois, ça m'interpelle, quoi. Et donc, je regarde, je cherche, quoi, tu vois. Et puis là, je vois que la structure autour de la cloison de pied de mât est cassée, quoi. Et donc, la structure là, autour de la cloison de pied de mât qui est cassée. Et derrière, en fait, je suis un peu, je regarde et je me rends compte que c'est cassé aussi derrière. Donc, derrière...
Tu sais pourquoi ?
C'est
de la tension, c'est quoi ? C'est des...
Bah, on a beaucoup...
des réglages qui étaient trop violents ? Comment tu...
Non, je pense que le bateau était un peu faible.
Ouais.
Je pense que le bateau était un peu sous-dimensionné à cet endroit-là. Il y avait un point faible, quoi.
Tu lui as mis des voiles de compétition, il n'a pas aimé, quoi.
Non, même pas, parce que franchement, j'étais complètement sous... Tu vois, j'avais vraiment cette idée, je perdais du terrain sur mes concurrents, mais sciemment, quoi, en me disant, je veux d'abord passer, il y avait vraiment cette partie de vent fort au début, j'étais assez content de mon positionnement, tu vois, je sais plus combien, je devais être à ce moment-là, je devais être, c'est quand même 40 ou 50 000 de la tête de flotte, après, on n'a pas les mêmes bateaux, ma trajectoire, elle était décalée dans l'ouest, donc je savais que J+2, J+3, elle allait être payante. Dans l'immédiat, elle n'était pas, mais je savais que c'était un investissement que j'avais fait et qu'elle serait payante à 2 ou 3 jours. J'étais content de ma position. Et là, bah, le bateau, il casse. Et donc, derrière, c'est pas évident parce que qu'est-ce que je fais ? Les conditions de mer sont fortes et elles vont encore se renforcer, quoi. C'est-à-dire que je sais que j'ai un deuxième coup de vent qui arrive. Et en gros, pour l'éviter, il faut continuer sur la trajectoire de la course, faire comme si j'avais pas d'avarie, quoi. Par contre, si je me rabats sur la Corogne, là, je me mets en plein dans l'accélération du Cap Finistère, il y a un vent pas possible, et la mer qui va avec, et je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir réparer le bateau à la Corogne. Je ne connais personne, j'ai une équipe technique, mais c'est 2 personnes, quoi, tu vois, enfin, même c'est plutôt 1 personne. Hein. Là, ça tient à 1 personne. Enfin non, il y a Benoît et François, donc Benoît qui est un copain et puis qui m'aide à préparer le bateau, et François qui est propriétaire du bateau et qui m'aide aussi là-dessus. Mais donc du coup, je me dis, si tu veux réparer le bateau et repartir, le mieux c'est d'aller à Lorient, et là tu sais, tu vas peut-être perdre du temps parce qu'il va falloir que tu rentres et que tu ressortes du golfe de Gascogne, mais par contre tu auras une réparation dans laquelle tu auras confiance, tu auras une vraie expertise du bateau, et tu vas gagner vachement de temps sur combien de temps tu vas le réparer, quoi. Et de toute façon, le bateau, j'estimais qu'il avait plus la capacité de naviguer travers au vent et à la mer pour aller à la Corogne. Donc, je me décide à rentrer à Lorient. Donc, demi-tour, quoi. Et ouais, c'est pénible. Et donc, voilà, donc je rentre et à la fois, il fallait que j'aille pas vite pour essayer de pas casser le bateau beaucoup plus. Mais à la fois, il y avait ce coup de vent qui me rattrapait derrière. Et il fallait que j'arrive à l'abri avant que ce coup de vent ne me coince sur les côtes bretonnes, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de trouver le tempo entre les deux. Et puis en fait, une fois arrivé à Lorient, le constat, c'était que la structure, elle était réparable, mais que le bateau, il serait... En fait, si je voulais être certain, il fallait déquiller, sortir le bateau de l'eau, démater, déquiller et tout inspecter, quoi. Et donc, du coup, dans les temps impartis, c'était plus gérable. Donc, à la finale, mon intention en arrivant à Lorient, c'était de repartir et de finir la course à tout prix. Enfin, à tout prix, non, pas à tout prix, dans la mesure où c'était raisonnable. Le pire aurait été que je reparte et que 3 jours plus tard ou 10 heures plus tard, j'ai la même avarie, quoi, tu vois. Parce que finalement, on allait réparer, mais on n'allait pas faire mieux que la manière dont c'était prêt à Saint-Malo. Donc à la finale, comme les conditions étaient ce qu'elles étaient, c'est-à-dire difficiles, j'avais pas trop d'échappatoire. Donc malheureusement, j'ai pas fini cette route du Rhum. Ce qui n'a pas fait Camping Toapi s'était engagé pour la route du Rhum parce que par rapport à leurs clients, par rapport à leurs cibles, c'était l'événement qui les intéressait. Et donc ils ont pas souhaité continuer au-delà de ce partenariat-là.
Okay.
Donc voilà, et donc en 2019, je me dis super, moi je me suis régalé en solitaire, je veux continuer à naviguer en solitaire, la classe 40 c'est super, mais j'aimerais bien m'essayer au circuit Figaro, d'autant plus que c'est la 50e édition de la solitaire du Figaro, qu'il y a un nouveau bateau qui arrive avec des foils, donc en tant que marin c'est intéressant de se confronter à la pratique d'un bateau à foil, même si c'est pas un dernier IMOCA, bah, quand même, on explore des réglages qui sont un peu dans l'air du temps. Et il y a un plateau de dingue, et ça part de Nantes, la ville où j'ai grandi. Je me dis, bah, faut absolument que tu fasses la solitaire du Figaro. Donc, me revoilà en quête d'un partenaire que je trouve pas cette fois-ci. Et donc, je décide de courir la solitaire du Figaro en soutien à une association nantaise qui me tient à cœur, qui s'appelle Handicap Agir Ensemble. Et donc, je leur offre la visibilité du bateau et je monte le projet avec eux, quoi. Et donc, Handicap Agir Ensemble, c'est le fonds de dotation d'une association qui s'appelle l'ADAPI, qui accompagne des personnes en situation d'handicap mental et psychique. Donc, ils accompagnent, l'ADAPI de Loire-Atlantique accompagne 2600 personnes dans cette situation-là, en Loire-Atlantique. Et donc, voilà, donc, on essaie de monter, enfin, on monte ce projet ensemble. Je fais la solitaire 2019, je me régale, vraiment super, fini troisième bisu. Et voilà, et donc, moi, mon objectif, c'est... voilà, j'ai eu la chance de faire deux tours du monde à la voile en équipage. Mon objectif, c'est de réussir à en faire un en solitaire. Donc, c'est le Vendée Globe 2024. Et d'ici là, donc, l'idéal, ce serait de réussir à entrer sur le circuit IMOCA en 2023, au plus tard. Et donc, d'ici là, de continuer à m'entraîner sur le circuit Figaro. Et puis, de toujours garder ce projet avec un pilier sociétal en faveur de l'ADAPI et d'Handicap Agir Ensemble. Et voilà, c'est ce à quoi je travaille aujourd'hui, quoi.
Carrément, hyper bon projet. tu penses que tu peux encore tenir combien de temps comme ça à faire de la voile avant de t'arrêter?
Je sais pas, je pense que vraiment, bon, on voit, la course au large, on a la chance que c'est un sport où on a pas mal de longévité. Après, moi, vraiment, ce qui me dicte, c'est l'envie que j'ai, quoi. Parce que, ouais, ça demande tellement de compromis, on fait, enfin, quand même, ça conditionne toute la vie à côté, la vie familiale. Donc, j'ai pas envie de le faire pour le faire. J'ai envie de le faire parce qu'à chaque fois, je trouve, j'ai un nouveau défi, j'ai l'impression de redécouvrir mon sport, de redécouvrir une pratique. Et là, tu vois vraiment l'engagement en faveur d'Handicap Agir Ensemble. Je me suis dit, tiens, je vais me défoncer sur l'eau pour faire de la voile. Je vais donner tout ce que je peux, mais je vais être à ma petite échelle en plus utile à une cause sociétale. Et du coup, à la limite, ça décuple presque ma motivation, quoi. Et donc ça, j'ai découvert ça en 2019 avec Handicap Agir Ensemble. Et je me dis, tiens, peut-être qu'en faisant de la voile, je peux, à mon petit niveau, hein, tu vois, je vais pas... Mais à mon petit niveau, je peux être utile à quelque chose qui est utile à la société, plus que d'aller faire à naviguer un bateau, quoi. Qui est une activité qu'on peut trouver assez, peut-être, égocentrique, quoi, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Donc, voilà, c'est ça que j'ai envie d'explorer, quoi. Et puis, bah, de toute façon, ce plaisir, cette envie d'être sur l'eau et en compétition, parce que c'est ça qui est... C'est le challenge, quoi, tu vois, c'est de te lancer dans un truc où, quand tu te lances, tu te mets en difficulté un peu, quoi. Tu te mets en difficulté toi-même et tu te dis, je vais être capable de le faire, quoi.
Ouais, bien sûr. Donc, est-ce que tu as des gens qui t'inspirent en particulier?
Dans le milieu de la voile ou...
Mais en général. Sans forcément des voileux.
Ça peut être des voileux, pas trop de mentors, non. J'ai pas trop de mentors. Non, je suis désolé, comme ça.
Faut pas être désolé. Tout à fait. Non, pas de souci. C'était une question pour comprendre un peu.
Bah, ce que j'aime bien, c'est pas forcément des personnes, mais ce que j'aime bien, c'est me plonger dans des récits un peu aventureux, tu vois. Par exemple, l'exploration des pôles, tu vois, ou ça, je trouve c'est des trucs de dingue, les histoires de Shackleton, des choses comme ça. Ça, c'est, je me dis, putain, les mecs, ils se lançaient dans des aventures quand même inouïes, avec des moyens qui sont bien loin de ceux qu'on a aujourd'hui. Franchement, ben là, faut en vouloir, quoi. Donc ça, j'aime bien ces récits-là, quoi, tu vois. J'aime bien me plonger là-dedans, quoi. Mais
pas simple, hein. Pas simple. Sébastien, ça fait déjà une heure qu'on discute. J'étais ravi de cet échange. J'ai trois petites questions avant qu'on termine. La première, c'est si tu t'adresses à quelqu'un qui fait de la voile, toi, qui est en club de voile classique, qui commence à faire l'optimiste, qui a cette ambition de faire un peu comme toi, d'arriver un jour à faire du Vendée Globe, qu'est-ce que tu lui dis? C'est quoi les étapes à suivre?
Ah, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas trop d'étapes, quoi. Et c'est vrai que c'est difficile d'intégrer ce milieu-là. Ben, de s'accrocher, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est surtout de s'accrocher, et puis que petit à petit, ça finit par payer, quoi. Et c'est vrai, quand on n'est pas du CERA et quand on n'est pas du milieu, c'est hyper difficile, quoi. C'est pas terrible comme conseil, mais tu vois, moi j'ai des cousins qui ont envie un peu de faire la même chose, j'essaye de l'aider comme je peux, on me dit je veux faire un stage, je dis bah tu peux peut-être aller voir là ou aller voir là, mais c'est vrai que quand t'es pas du tout du milieu, franchement c'est un milieu qui est quand même peut-être beaucoup trop fermé, quoi. Et...
Non, mais très bien, très bien. Donc, s'accrocher.
Faut s'accrocher. Ouais.
Comment on fait pour te suivre, Sébastien? C'est quoi le.
Eh ben, écoute, il y a une page Facebook Sébastien Marcet Navigateur et c'est essentiellement là qu'il y a toutes les nouvelles.
Parfait. Top. Ouais. Nickel. Et du coup, dernière question. Imagine, tu arrives à recroiser Sébastien qui a 12-15 ans, qui fait encore ses petites courses tout seul. Ou ses petits cours d'ailleurs tout seul, qu'est-ce que tu lui dis?
Qu'est-ce que je lui dis?
Sébastien qui fait, tu vois, juste avant l'année que tu fais avec tous tes copains à 14 ans, tu rencontres Sébastien qui a 13 ans et qui s'apprête à faire tout ça, tu lui dis quoi?
Ouais, je lui dis de se lâcher, quoi. Tu vois, je lui dis de se lâcher et d'oser, quoi. Voilà.
C'est un parcours incroyable, Sébastien. J'ai adoré cet échange. Merci d'avoir partagé tout ça. On te souhaite beaucoup de courage pour les prochaines étapes, notamment pour le Vendée Globe 2024. On te souhaite d'y arriver. Ce serait une très belle réussite pour tout le monde, je pense. Et puis, écoute, à une prochaine sur l'eau, à Lorient ou ailleurs.
Ouais, merci à toi, Pierre-Arnaud. À bientôt.
Ciao.
Ciao.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.